Magnifique. Donc aujourd'hui une vidéo un peu particulière. Donc comme d'habitude, pour celles et ceux qui ont suivi le podcast jusqu'à présent, vous avez remarqué que tous les 5 épisodes, j'essaye d'avoir un épisode dans lequel on échange, on interagit. Et c'est ce que j'appelle les foires aux questions, un épisode dans lequel je réponds à 5 questions qu'on m'envoie par email. J'essaye de choisir des questions qui peuvent être utiles pour la plupart des movers. Donc ça va être souvent lié évidemment au mouvement et à la mobilité, et avec des cas, on va dire, des cas assez communs de douleur aux hanches, de douleur au dos, etc. Donc ça a commencé comme ça, et puis à mesure que j'ai voilà, des retours sur ces épisodes, et puis à mesure que les épisodes du podcast partent un peu dans d'autres directions que se réapproprier ses mouvements et sa mobilité, j'ai de plus en plus de questions sur mon parcours à moi personnel, mon background, mais également des questions qui vont essayer de couvrir l'entrepreneuriat, le style de vie, la méditation, la spiritualité, les autres dimensions de notre être. Aujourd'hui, dans cet épisode, j'essaye de faire un effort supplémentaire. Comme je vous le dis à chaque fois dans les épisodes du podcast, moi, le podcast, c'est vraiment un prétexte pour travailler sur mon propre développement personnel. D'accord? Donc moi, ça me permet de partager un peu plus mes vulnérabilités, mon passé, d'ouvrir un peu plus mon cœur et de laisser, en fait, d'ouvrir la porte à plus de gens, en fait, pour qu'ils puissent partager les bons moments comme les mauvais moments de ma vie. Donc, dans cette idée-là, j'ai choisi aujourd'hui 5 questions qui vont être pas nécessairement intimes ou personnelles, mais qui vont me demander de me challenger et d'essayer de vous partager un peu plus de choses en toute humilité, en toute sincérité et en toute honnêteté. Donc voilà, j'essaye également au maximum de vivre ce que je dis. Et comme toujours dans ces épisodes, l'idée n'est pas de me présenter en figure d'autorité suprême ni de gourou. Ça, je laisse ça peut-être à une prochaine phase de ma vie. Mais pour l'instant, je vais prendre le chemin très très humble de l'enseignant et de l'élève qui partage simplement des petites perles de sagesse, des petites connaissances, des petites astuces, des protocoles d'entraînement, des expériences, des expérimentations, des tests. Et puis voilà, l'idée c'est de donner au maximum aux gens pour qu'ils puissent eux-mêmes reprendre le contrôle sur leur mouvement, leur santé, leur mobilité, leur longévité, et que tout le monde puisse devenir de plus en plus autonome physiquement. C'est ça un peu l'objectif général. Et magnifique, mais il y a même des invités du podcast. Vous aurez reconnu dans le chat Sabou qui est présente. Donc voilà, un peu pour la petite présentation de cet épisode en particulier. Comme d'habitude, j'attaque avec les 5 questions. J'y réponds, vous commentez, j'essaye d'interagir pendant les questions, mais à la fin des 5 questions, on a un espace dans lequel on peut échanger vous et moi. Et aujourd'hui, il y a pas mal de movers motivés et on a des questions super intéressantes. Donc, on attaque. Là, normalement, tout va bien. La vidéo, le son. Pour celles et ceux qui vont écouter ça, je vous invite à regarder sur YouTube. J'ai fait l'effort d'aller dans ma chambre. Donc, on a une belle light. Je fais des efforts. Vous l'aurez remarqué, hein, j'ai un setup assez professionnel. J'en suis pas peu fier. Un mur blanc, pas de micro. Voilà tout ce qu'il faut pour bien démarrer un live sur YouTube, en minimaliste que je suis. Ok, on est parti. Donc, première question. Une question de Benjamin. Comment gères-tu tes périodes de fatigue? Est-ce que tu continues à te lever si tôt? Est-ce que tu prends du repos pour ne rien faire que de profiter du soleil et de la mer? Ou est-ce qu'au contraire, tu te forces à continuer tes routines et tes habitudes, pardon, malgré la fatigue, que ce soit de la fatigue physique ou mentale? C'est une excellente question, Benjamin. C'est une question également qui revient souvent, pas nécessairement, en tout cas pas uniquement dans mon monde à moi, qui est le mouvement, la mobilité, la réhabilitation, la santé de manière générale, mais qui revient en fait dans toutes les pratiques sportives. On est tous, évidemment, dans notre développement, physique, on va tous être soumis à un moment donné à des périodes de fatigue. Moi, ce que j'ai appris, avec toutes mes expériences et les différentes pratiques sportives que j'ai eu l'occasion de faire et les différentes intensités dans lesquelles j'ai pratiqué les différents sports, notamment quand tu fais de la compétition, tu dois évidemment pour plusieurs semaines avant tes compétitions augmenter l'intensité. Et donc, avec l'intensité va venir une période nécessairement de recovery, de récupération. Et donc, tu vas être beaucoup plus sensible à la fatigue musculaire et la fatigue physique de manière générale. Donc, pour aborder le sujet de la fatigue, avant de répondre à la question, comme d'habitude, à chaque question, il n'y a pas une seule réponse unique et il n'y a pas une formule magique qui marche pour tout le monde. Comme pour tout, hein, je suis désolé de le dire à chaque fois, mais il faut toujours prendre du cas par cas. La seule chose qu'on peut partager et qu'on peut, on va dire, honnêtement dire, mais pas imposer comme une vérité générale, mais simplement partager en tant que principe qui couvrirait tous les cas de figure, ou en tout cas un grand ensemble de cas de figure, au sujet de la fatigue, c'est de comprendre d'abord la chose suivante. Donc, comme tu l'as mentionné, Benjamin, tu parles de fatigue physique ou mentale, il y a plusieurs types de fatigue. Et comme ce que j'essaye de partager à chaque fois au travers de ce podcast et des autres contenus, quand tu essayes de faire l'analyse d'une blessure, d'un moment de fatigue ou, on va dire, d'un moment où tu dois arrêter tes progrès parce qu'il y a eu des dommages quelconques, il est toujours préférable de faire une analyse complète sur toutes les dimensions de ton être. Quand tu as un moment où tu as une blessure, où tu as une fatigue, où tu as une perte d'énergie ou peu importe, il ne faut pas uniquement regarder la pratique physique. Il ne faut pas regarder le moment de l'entraînement, il ne faut pas regarder l'intensité avec laquelle tu t'es entraîné. Il faut également regarder le sommeil, la nutrition, l'hydratation et même la partie un peu plus émotionnelle, la relation au travail, la relation avec ton partenaire. Parce que tout ça va impacter tes performances, ça va impacter la qualité de ton entraînement et évidemment, ça va impacter le fait que tu aies besoin ou non de récupérer et que tu te sentes, on va dire, fatigué ou pas. D'accord? Donc ça, c'est le premier élément. C'est l'auto-évaluation, elle doit être faite sur plusieurs dimensions. Comment aborder cette auto-évaluation d'une manière très simple? En tout cas, moi, c'est ce que je partage, c'est de ne pas changer beaucoup de paramètres. C'est-à-dire que si tu t'entraînes, on va dire, tu t'entraînes tous les jours, ou on va dire 5 fois par semaine, mais que chaque jour, tu t'endors pas à la même heure, tu ne bois pas la même quantité d'eau, tu as des repas totalement différents. En fait, sur toutes les dimensions qui vont impacter la qualité de ton entraînement et donc ultimement ton niveau d'énergie dans la journée et pendant ton entraînement, comme tu changes tous les paramètres, tu ne vas pas pouvoir mesurer quel paramètre a influencé telle ou telle performance ou quel paramètre a été la cause de telle ou telle fatigue ou blessure. D'accord? Donc la première chose à faire pour essayer, avant même d'aborder le travail de qu'est-ce que je fais quand je suis fatigué, on remonte un peu la chaîne et on essaye d'aborder le travail. Qu'est-ce que je fais pour justement ne pas être fatigué? Pour ne pas être fatigué, je vais essayer de d'établir des routines, des structures qui sont pas changeantes. Pourquoi? Parce que j'ai besoin en tout cas pendant une longue période de temps, d'avoir une certaine régularité pour que je puisse après changer comme un petit alchimiste, ajouter un peu de fatigue, pardon, ajouter un peu de sommeil ici, retirer un peu de nourriture ici et jouer en fait avec ces différents curseurs pour que je puisse trouver, on va dire, la formule qui me correspond à ce moment-là de mon développement pour cette pratique physique-là et qui me permet d'avoir un niveau d'énergie à peu près constant toute la journée et justement d'éviter les pics de fatigue. D'accord? Donc ça, c'est le premier travail, on va dire, le travail préalable qu'on doit faire avant même d'aborder la question de qu'est-ce que je fais quand je suis fatigué. Une fois que ça c'est fait, il se peut évidemment que tu aies des périodes de fatigue. Elles peuvent arriver, comme je te disais, de toutes ces directions-là, tu vois, émotionnelles, etc. Donc, on va dire que tu as une bonne routine, tu as quand même une perte de fatigue, tu as fait ton analyse, tu t'es rendu compte que c'était émotionnel parce que, je sais pas, cette semaine-là au travail, il y a eu beaucoup de stress et tu n'as pas su on va dire, le gérer ou t'as pas su, tu n'as pas peut-être dédié assez de temps pour le reconnaître. Et donc, dans ta pratique, tu as été moins concentré, tu as eu une pratique moins en conscience et donc tu as poussé trop l'intensité pour compenser. Et donc tu es fatigué. Donc à ce moment-là, que faire? Pas de formule miracle là non plus. Personnellement, il m'arrive très rarement d'être fatigué, en tout cas fatigué dû à la pratique physique. Si je suis fatigué, c'est que en fait, je sais immédiatement ce que j'ai fait de mauvais. Par exemple, je sais pas, je me suis trop entraîné après ouais, une blessure émotionnelle ou peu importe. Et donc moi, je l'ai presque en amont en fait. Je sais que par exemple, dans 2-3 jours, je vais être éclaté parce que vu ce que je fais, c'est pas sain. Mais encore une fois, je me dis quand même que voilà, cette période de quelques jours où j'ai envie de me mettre vraiment tarif, peut-être à ce moment-là, comme je sais pas, moi j'ai une blessure à l'ego ou peu importe, je m'y autorise à la faire, tu vois, je m'abandonne en fait à cette sensation-là et à ce sentiment. Et après, quand la période ou quand le moment de la fatigue arrive et que j'ai besoin de récupérer, je me prends un jour off, tu vois, je me prends vraiment un jour où je le fais pas. Après, pour celles et ceux qui me connaissent, ils savent que ça arrive que très rarement, tu vois, j'essaye, en tout cas, comme ça fait des années que moi je suis dans mon corps. Et que j'ai eu en fait, tu vois, j'ai fait en fait toutes ces erreurs de trop m'entraîner, de faire un peu n'importe quoi, de pas faire attention à ma nutrition, tu vois, de pas dormir, d'arriver avec 2 Red Bull, d'aller au travail, et après le soir tu prends encore 2 Red Bull juste avant la boxe et t'es en tremblement et tu fais quand même 2 heures de sparring et après t'as un pote qui vient et tu fais encore 5 rounds supplémentaires. J'ai fait toutes ces erreurs, donc ça a permis de recalibrer. De toute façon, je l'ai payé hein, avec les blessures. Mais ça a permis de recalibrer en tout cas ma conscience corporelle et le rapport que j'ai avec mon corps. Et donc, c'est vrai que là, voilà, ces dernières années, je jouis un peu d'un corps sur lequel j'ai pas besoin tu vois, d'avoir des périodes de creuse de pause. Mais là, par exemple, j'y pense. J'ai eu un gros moment de fatigue, par exemple l'an dernier, je revenais d'Amsterdam et je devais faire un stage à Lyon. Je suis revenu en fait le matin même, j'ai fait 7 heures de train et après j'ai fait mon stage. J'ai un ami qui m'a récupéré, j'étais éteint, quoi. J'étais mort de fatigue. Mais voilà, après une nuit de sommeil, c'est reparti parce que justement c'était la fatigue du train que j'avais pas pris en compte. Et voilà. Mais donc pour répondre à ta question, non, pas nécessairement profiter du soleil et de la mer, même si ça peut être utile. Mais voilà, quand t'as un petit moment de fatigue, ça peut être aussi la fatigue due, tu sais, par exemple, juste après que tu étais malade, que tu as eu une blessure, tu as un peu cette période creuse. Comme toujours, en fait, il faut s'abandonner à ces choses-là. Et après, trouver l'équilibre dans lequel tu te dis j'ai besoin pour récupérer, mais c'est pas de la procrastination. J'ai simplement besoin d'une période de temps pour récupérer, pour me recharger, pour me ressourcer. Et donc, voilà, moi, ma recommandation, s'il peut y en avoir une, comme je te disais tout à l'heure, si on peut établir un principe général qui gouvernerait un peu tous ces moments-là que j'essaye de décrire avec ces différentes sources de fatigue, ce serait de s'abandonner en fait à la sensation que tu ressens et de prendre le temps qui est nécessaire sans pour autant lâcher prise totalement et partir vers de la procrastination. Tu vois, donc moi par exemple, récemment j'avais eu une blessure au pied, tu vois, une infection. Et voilà, dès que j'ai pu de nouveau, ben, on va dire, tu vois, après 2 jours où j'ai rien fait parce que j'étais vraiment éteint quand je passais mon temps à dormir et à faire tomber la fièvre, ben, voilà, dès que j'ai pu reprendre, même si je pouvais plus marcher, j'ai quand même directement repris la mobilité. Et puis voilà, donc tu reprends en fait petit à petit les petites briques que tu as accumulées pour construire un peu le mur de ta discipline. Quand tu as un moment de fatigue, voilà, tu vas le mettre un peu de côté, mais après c'est bien de reprendre toutes ces briques-là petit à petit, tu vois. Reprendre l'alimentation, reprendre le sommeil, reprendre l'hydratation, ça ne veut pas dire qu'il faut directement passer du tout au tout, une période où tu es creux, tu es fatigué, tu es mou et tu ne peux rien faire, à directement tout reprendre. Mais voilà, dès que tu as l'occasion de reprendre peut-être un ou deux éléments, et ben tu les rajoutes petit à petit. Et donc voilà, moi j'avais repris par exemple la mobilité, j'avais repris le fait de m'hydrater en permanence. Mais tu vois, je ne pouvais pas contrôler le sommeil parce que j'avais les médicaments, j'avais trop de trucs et tout, donc mon sommeil était déréglé. Mais une fois que j'ai pu le rétablir, et ben boum, je me suis de nouveau couché à la même heure que d'habitude, levé à la même heure que d'habitude. Et voilà, et en une semaine, tu reprends petit à petit tout ton rythme de manière graduelle. Donc voilà, ce serait l'idée de comment aborder la fatigue. Voilà pour cette première question. Coucou mon Fabien, je reviens sur les questions juste après. On va passer à la les questions du chat, pardon. On va passer à la seconde question. On va sortir du monde de la pratique physique et de l'entraînement physique pour parler un peu de style de vie. Donc, deuxième question. Salut Slim, comment vis-tu financièrement parlant? C'est une question qui peut gêner. J'espère que tu ne le prendras pas mal. Mais je me la pose beaucoup, car depuis 1 an et demi, je suis en transition, j'ai quitté mon boulot pour ne vivre que du sport, et j'ai parfois malheureusement encore peur de l'insécurité financière. Et les personnes comme toi m'inspirent beaucoup et me fascinent, et je me demande comment faites-vous? C'est pas dramatique ça. Mélissa, une très bonne question. Donc non, moi personnellement, c'est pas une question qui me gêne. J'ai pas de gêne par rapport à ça, j'ai pas de tabou. Mais c'est vrai qu'en France, on a ce tabou un peu de l'argent, même des gens qui ne veulent pas parler de leur style de vie, etc. Alors, là, tu t'abordes un sujet qui est commun, je pense, à pas mal de gens, pas nécessairement celles et ceux qui veulent passer dans l'entrepreneuriat. En tout cas, avant d'y répondre, je vais te ramener à plusieurs épisodes du podcast dans lequel on aborde le sujet de l'entrepreneuriat en détail, notamment un récent épisode avec Rudy Koya de Superphysique, l'épisode 19, mais également l'épisode numéro 2 avec Sabou qui parle justement de l'ouverture de son école de danse après avoir quitté le monde du salariat. L'épisode 3 également avec Thibaut Marino qui a une vie d'entrepreneuriat et qui va te parler également de comment en fait oser faire ses premières expériences. Et échouer en fait, et accepter le fait d'échouer, mais continuer à faire des expériences, et continuer à échouer jusqu'à trouver en fait ce dont voilà ce qui te plaît et comment y arriver. Donc voilà un peu pour les petites ressources qui peuvent y avoir déjà sur le podcast. Encore une fois, on a plein d'entrepreneurs, on a plein d'artistes, on a plein de gens qui vivent de leur passion et qui vivent du sport et du corps. Donc n'hésite pas à te ramener à ces podcasts. Moi, pour ma petite réponse sur l'insécurité financière. Bah, il n'y en a pas vraiment. Évidemment, beaucoup de lectures peuvent t'aider, mais comme pour toutes les choses qui sont un peu reliées j'aime pas trop le mot développement personnel parce qu'il est surutilisé, mais bon, on va dire, voilà, le développement un peu ou l'acceptation de ta situation, je pense que le meilleur travail, c'est d'essayer de mettre les choses à plat. Et généralement, quand tu écris les choses, quand tu les mets sur papier, tu te rends compte qu'il n'y a pas besoin déjà d'énormément d'argent pour vivre et pour survivre. Et en fait, tu te rends compte de toutes les possibilités qui sont ouvertes à toi, tu vois, notamment quand tu es française et quand tu es en France, tu vois, on a plein d'aides, on a plein de choses comme ça. Donc, c'est pas qu'il n'y a pas raison de paniquer, mais voilà. Faire l'état des lieux honnête et sincère de ta situation, sachant que voilà, ce qu'il faut prendre en compte, c'est évidemment ta santé mentale et physique. Te rendre compte qu'il y a plein de choses pour lesquelles déjà tu peux être en gratitude, le fait d'avoir un toit, à manger, internet, peu importe l'endroit où tu habites, ton corps en bonne santé. Je veux dire, pour des gens qui essayent de vivre du sport, tu pars déjà, en fait, déjà commencer par se rendre compte que tu pars déjà avec énormément de cartes en main, c'est déjà magnifique. En plus, après, tu as ta famille, les aides de l'État, tu as tout ce soutien-là. Et après, même en termes de dépenses, il y a toujours moyen de trouver moins cher, d'acheter local, etc. Donc, quand tu mets toutes les choses à plat comme ça sur le papier, en tout cas moi c'est ma vision des choses, tu te rends compte que quand tu es en France et que tu as envie de vivre de ton art ou de ton sport ou de ta passion et que ton projet, c'est pas non plus, on n'est pas en train d'essayer de créer un truc genre révolutionnaire, tu veux simplement, tu vois, enseigner, partager les choses, créer des événements, faire des choses qui sont, on va dire, peut-être pour une majorité des gens qui vivent le monde du salariat, ça peut être extraordinaire dans le sens ça sort de l'ordinaire. Mais en fait, quand tu mets les choses sur papier, t'es pas en train de faire des choses qui sont incroyablement folles ou dangereuses, tu vois. Donc au final, il n'y a pas vraiment besoin ni raison de paniquer ou d'avoir des insécurités. Donc ça peut être un peu le premier point de départ. Donc faire cet état des lieux concret, te rendre compte de toutes les choses pour lesquelles tu peux déjà être en gratitude et te rendre compte que tu es déjà chanceuse, quoi. Tu vois, tu fais déjà partie des gens qui sont les plus chanceux du monde pour commencer cette aventure-là. Donc déjà, en tout cas pour moi, ça permet déjà de faire un petit de lâcher un peu prise, de lâcher un peu la pression, de décompresser, de te rendre compte que ok, il n'y a pas besoin de paniquer. Ça, c'est la première étape. La seconde étape, ce serait justement de te renseigner, d'apprendre et de changer de paradigme quant à la relation à l'argent. D'accord? Une des grandes choses, moi, qui m'a aidé personnellement dans ce travail-là, c'est de choisir entre est-ce que tu veux beaucoup de possessions, est-ce que tu veux avoir beaucoup d'argent en absolu ou en relatif. Cette différence-là, elle permet de savoir ce que tu valorises en priorité. Est-ce que tu valorises l'accumulation de choses matérielles, tu vois, voiture, maison, machin, ou est-ce que tu valorises la qualité de la vie, tu vois? Une fois que tu fais cette segmentation et que tu pars dans je valorise la qualité de la vie, et bien en fait, tu te rends compte que ta relation à l'argent, elle peut être beaucoup plus, on va dire, saine et tu peux avoir beaucoup moins d'insécurité parce que tu te rends compte que pour avoir une qualité de vie élevée, il faut moins de choses, il faut moins dépenser. En fait, c'est ça ça qui est bien, c'est que celui qui souhaite vivre mieux ou plus heureux ou plus en paix, il va naturellement aller vers la voie de ben, il faut que je dépense moins en fait, il faut que je dépense moins dans. Parce qu'il y a y a que des choses qui servent à rien en fait. Parce que pour être en paix, pour être apaisé, pour être un peu plus serein, il faut simplement regarder à l'intérieur, il faut simplement faire des choses qui nous plaisent et qu'on aime. Donc ça aussi, ce n'est pas du tout un discours hippie. Je vais te donner des exemples qui sont très concrets. Quelqu'un qui veut une qualité de vie améliorée, il se dit, est-ce que je préfère vivre dans un petit appart, confiné dans une ville énorme, bondée, avec plein de stress, plein de dangers, plein d'insécurité, etc. Ou bien je pars à l'autre bout de la planète, dans un pays qui soi-disant a, tu vois, un PIB inférieur et la qualité de vie elle est moindre parce qu'ils peuvent moins consommer, mais qu'au final tu es au bord de la mer, t'as pas de confinement, tu es en toute sécurité, tu vis dans des endroits beaucoup plus grands, beaucoup plus vastes, il y a moins de transport, moins d'embouteillage, moins de pollution sonore, tu as accès au coucher du soleil, au lever du soleil, tu peux regarder les étoiles. Donc ça pour moi c'est une qualité de vie améliorée parce que tu es dans un environnement dans lequel tout promeut la paix en fait. Donc, ça te permet en fait de faire ce genre de choix-là et de dire que ben, en fait, moi, ma relation à l'argent, si j'en mets des insécurités, ben, en fait, c'est de ma faute. Tu vois, c'est parce que je suis en train d'essayer de rentrer dans un modèle qui n'est pas le mien, qui n'est pas en accord avec mes valeurs. Ça peut être le cas, par exemple, si tu te dis, ah, mais j'ai une certaine somme que je devrais avoir, tu vois, j'ai un salaire que je devrais avoir, tu vois, ah, j'ai cet âge-là, je devrais gagner tant d'argent. Tout ça, c'est des conditionnements qui ne sont pas les nôtres. Tu vois, c'est des choses qu'on nous impose. à cause de l'école, à cause du pays, à cause de, tu vois, peu importe. Mais ah, j'ai cet âge-là, je devrais avoir une maison. Mais non, en fait, enfin, pourquoi, tu vois? Ah, je devrais avoir une voiture, je devrais déjà être là. Tout ça, c'est pas nous, c'est pas toi. C'est pas toi qui décides ça, c'est quelque chose qu'on t'a imposé. Tu vois, ici, par exemple, t'as des mecs, ils ont, je sais pas, 40 ans, 50 ans, et ouais, ils ont des boutiques, ils ont des trucs, ils vivent à Bali, tu vois, et ils viennent de. Tu vois, ils sont nés dans des villes énormes, etc. Ils ont tout lâché. T'en as pas un qui est dépressif, qui est sous médicaments, qui a du mal à dormir, etc. Parce qu'au final, t'as fait le choix de la qualité de vie. Alors moi, ce que je suis en train de dire, c'est pas qu'il faut tout quitter, tu peux avoir la même qualité de vie en étant au cœur d'une ville bondée. Mais ce dont je te parle là, c'est juste un état d'esprit à avoir. C'est un changement de paradigme sur ça. Et c'est ça qui va ultimement fixer, ou en tout cas t'aider à progressivement améliorer ta relation avec l'argent. Tu vois? Les insécurités financières, elles viennent parce qu'on essaye de projeter, on essaye de projeter des choses vers l'extérieur. Tu vois? On essaye de. Ouais, satisfaire un modèle de pensée qui n'est pas le nôtre. On essaye d'avoir la validation de nos pairs. On essaye de rentrer dans un moule qui n'est pas le nôtre, tu vois. Que ça soit, comme je te disais, par rapport à l'âge, par rapport au métier, par rapport à, je sais pas, aux réseaux sociaux. Et au final, tu te dis, putain, mais en fait, si tout ça, je m'en moque, et ben voilà, je peux largement vivre très bien avec ce que j'ai. Et si moi, je passe ma journée et je suis heureux avec moins que ce que je suis censé avoir, parce que le monde me dit que je suis censé avoir tant d'argent à tel âge, et avoir une maison et trois chiens ou j'en sais rien, bah, si tu es à l'aise avec cette idée-là, tu vas voir que financièrement, tu vas être libre. Et puis voilà. Donc moi, je suis ravi que je puisse t'inspirer à faire ces changements-là. Mais encore une fois, il y a vraiment rien d'extraordinaire. C'est juste un changement d'état d'esprit. Et c'est accessible à tout le monde. Et les gens qui vivent cette vie-là, ou en tout cas qui ont un rapport avec l'argent qui est un peu plus en paix, ils n'ont rien d'extraordinaire. Et c'est pas nécessairement des entrepreneurs, c'est pas nécessairement des nomades, c'est pas nécessairement des gens qui vivent de leur passion. Il y a plein de gens qui sont très très bien avec l'argent et qui n'ont pas du tout d'insécurité financière, simplement parce qu'ils ont fait le choix de privilégier la qualité de leur vie et de faire un peu ce retour à ce que eux veulent, ce que eux aiment, la manière dont ils veulent dépenser leur argent. Tu vois, il y a des gens qui sont, je sais pas moi, tu peux prendre deux personnes qui ont le même métier, qui travaillent dans la même boîte. Il y en a un qui va dépenser tout le temps en soirée, en alcool, en machin, et l'autre qui va rien faire en fait, qui va juste garder son argent, dépenser dans des trucs qu'il aime faire, et il aura moins d'insécurité. Et pourtant, ils ont le même salaire, ils ont les mêmes choses. Donc voilà, ça peut. C'est vraiment fait ce retour en fait à toi et définis ta propre échelle de valeur et ton style de vie et définis précisément c'est quoi pour toi avoir une qualité de vie. Et après, tu pratiques en fait, tu pratiques vivre cette vie-là. Et être en accord avec cette pensée-là, et tu vas voir que ça disparaît petit à petit, les insécurités financières. Donc voilà, j'espère que ça répond à la question, mais c'est une très très bonne question. Encore une fois, hein, pas de réponse miracle, il n'y a pas de livre qui va changer ta vie, etc. Hein. C'est vraiment un travail quotidien, et c'est un travail personnel. Il y a des gens qui vont te dire que voilà, pour eux, une bonne qualité de vie et pas avoir d'insécurité sur l'argent, c'est, je sais pas moi, vivre sur une île déserte et faire ça. Et d'autres qui vont dire non, moi je suis très bien au cœur de la ville, à avoir accès à tout ce que j'ai envie d'avoir accès et à avoir tant d'argent à la fin du mois pour me sentir tranquille, tu vois. Donc chacun définit un peu son petit paradis terrestre. Et puis voilà. Ok? Je regarde rapidement le chat, voir s'il n'y a pas de problème technique. Normalement, tout est bon. Ok. On continue. Question numéro 3. Salut Slim, je me suis toujours demandé comment tu arrives à être à l'aise au sol sans tapis. Ta dernière vidéo sur la mobilité des hanches m'a encore fait tilt. Est-ce que tu as des astuces pour sensibiliser le corps sans tapis? Question de Arnaud. Très très bonne question, Arnaud. Et donc, c'est encore une fois, la réponse elle va être un peu surprenante. Je vais essayer d'aller dans deux directions. Donc la première c'est. Il y a une partie de ta pratique physique qui devrait toujours être liée au conditionnement physique. D'accord? Donc souvent on parle de préparation physique et on pense à avoir plus de force, plus d'explosivité, avoir une VO2 max plus importante. Mais il y a aussi le rapport avec les surfaces. Tu vois, que ce soit si tu pratiques beaucoup de choses au sol, par exemple, on va dire que tu es un pratiquant de jiu-jitsu brésilien, comme ça a été l'objectif là de cette dernière vidéo sur les hanches, c'était pour ces pratiquants-là. Et ben, logiquement, ton sport se passe au sol. Tu devrais dédier une partie de ton entraînement qui est en dehors du sport, ta pratique physique, au sol. Pour moi, c'est extrêmement logique. C'est-à-dire que si tu passes toute ta vie debout et que juste 3 fois par semaine, tu es au sol, bah évidemment que tu vas avoir moins de temps, moins de volume d'entraînement, moins de pratique au sol. Et ce qui fait que ton cerveau, il va moins s'habituer à ce que ton corps puisse bouger au sol. Et donc, naturellement, tu auras moins de temps pour désensibiliser certaines zones, renforcer certains os, travailler la mobilité de certaines zones, etc. Donc le premier élément pour moi, pour t'aider un peu à être beaucoup plus à l'aise au sol et à renforcer un peu tes tibias, etc., c'est passe plus de temps au sol. D'accord? Ça peut être t'asseoir en César, même t'asseoir sur les fesses au sol, t'allonger par terre, rouler un peu, dédier du temps au sol. Que ça soit pas nécessairement à la salle, hein, mais même chez toi, tu vois, passer du temps au sol. Même avoir un futon, mettre un tapis sur le sol et essayer de gagner de plus en plus ce rapport en fait avec la surface dure. Okay, donc ça c'est le premier élément. Le second élément, en particulier pour le contact avec les tibias par exemple, moi ce que j'utilise beaucoup pour faciliter le contact des os qui sortent un peu, tu vois, comme bah, ça peut être le cas pour le coude, le tibia, le genou, j'essaye de faire quelques petits exercices, quelques petits mouvements dans lesquels j'ai beaucoup de temps de contact avec la surface. Donc par exemple, je vais faire ce qu'on appelle des shin rolls. Je vais rouler sur mes tibias. De la position assise en César, donc tu mets tes fesses sur tes talons, tes chevilles sont en extension, et donc tu es assise avec les deux tibias sur le sol. Tu peux par exemple shifter ton bassin, le déplacer de gauche à droite et rouler un peu sur tes tibias. D'accord? Comme un rouleau à pâtisserie que tu ferais rouler sur la surface. Ça peut être un premier élément. Tu peux faire des shin rolls, passer d'un Fisherman squat, hop, te relever. Rouler sur un seul tibia et revenir, rouler sur un seul tibia et revenir. Passer du temps comme ça. Ça peut être marcher à quatre pattes avec les tibias et les genoux sur le sol. Ça peut être différents petits exercices comme ça dans lesquels tu t'habitues ton corps à être sur le sol et à rouler dessus. D'accord? En quelque sorte, t'essayes de, tu vois tous les petits capteurs, tous les petits nerfs qu'on a sur ces surfaces-là, sous la peau, t'essayes pas de les écraser et de les tuer, mais t'essayes vraiment de les désensibiliser, de les rendre. De faire en sorte que le message nerveux qu'ils vont t'envoyer, ça ne va pas être directement corrélé à un message de douleur, on va dire de 9 sur 10, mais petit à petit, ça descend à 7, à 6, à 5, jusqu'à que ça soit largement supportable et que ça soit juste une gêne, mais pas une douleur monstrueuse. D'accord? Ça peut être un élément qui va t'aider. Donc le premier, un plus large volume d'entraînement ou en tout cas de pratique physique en contact de la surface dure. Le second élément, dans ta pratique physique, incorporer des exercices qu'on pourrait appeler endurance de force, où tu passes beaucoup de temps dessus. D'accord? Pas de la pliométrie, par exemple, où tu vas sauter. Non, tu passes beaucoup de temps dessus et tu travailles cette endurance mentale et physique à rester dessus. D'accord? Un dernier élément qui pourrait être intéressant, en tout cas moi, ça a été l'occasion avec mon parcours sportif. J'ai fait des sports de combat, notamment le Muay Thai. Et donc, c'est l'accumulation des chocs sur cette surface-là, notamment le tibia, les chevilles, le haut du pied, qui va évidemment, au bout d'un moment, en fait, te rendre insensible totalement à cette zone-là. Donc, c'est pour ça que moi, une des raisons qui pourrait expliquer mon aisance, sur une surface très dure, par exemple à rouler sur mes tibias au genou, c'est parce que j'ai donné beaucoup de coups de pied, dans des sacs de frappe. Et donc, ça, c'est vrai que moi, ça a désensibilisé, mes tibias, en fait, tout simplement. D'accord? Donc, ça aussi, ça a à voir avec un peu la surface de la peau, en fait, juste ce qu'il y a sous la peau, essayer de jouer un peu là-dessus. Le dernier élément, j'y pense, c'est d'augmenter la densité osseuse, d'avoir des os qui sont beaucoup plus denses, d'accord? Donc ça aussi, hein, ça avec, tu peux le faire là, avec l'exemple du Muay Thai, avec des chocs contre le sac de frappe. À mesure que tu frappes, sur ton os, il y aura des légères fissures, tu vas évidemment récupérer, guérir, et donc petit à petit, l'os, il va devenir de plus en plus dense. C'est pour ça que tu vois des gens, par exemple, qui ont fait, je sais pas moi, 10 à 15 ans de Muay Thai, leur os est beaucoup plus dense. Ils ont un os qui est énorme. Et donc, au lieu d'avoir cette forme de tibia qui est pointue, qui est comme une lame, et ben, t'as un tibia qui est un peu plus rond. Et donc, ça, évidemment, t'es beaucoup plus à l'aise après au sol à mettre de la charge de travail dessus. D'autres pratiques qui peuvent aider à améliorer la densité osseuse, c'est soulever lourd. Tu vas faire des squats, faire des choses où tu as beaucoup de charge, ça va t'aider à augmenter cette densité-là. Et même, tu vois, par exemple, la course, en fait, tous les micro-chocs, ça va t'aider, même si moi, je ne recommande jamais la course parce qu'on ne sait pas courir. Mais voilà, donc, pour récapituler, un peu plus de temps passé au contact de la surface. Donc, si tu as envie d'améliorer la relation que tu as avec le sol, eh ben, essaye d'incorporer ça dans ton quotidien. Tu vois, de la même manière que si un jour, tu as envie d'améliorer ta relation avec le monde à l'envers, et ben, dès que tu as l'occasion, hop, tu mets les mains au sol, tu te mets à l'envers, tu fais des roues, juste comme ça. Donc, tu augmentes un peu ce stimuli, tu l'as beaucoup plus de fois dans la journée, beaucoup plus de fois dans la semaine, dans l'année. Deuxième pratique une pratique un peu plus d'endurance de force. Donc avoir quelques exercices sur lesquels tu maintiens le contact entre cette zone que tu essaies d'améliorer, de renforcer avec la surface dure. Donc ça peut être aussi l'exemple du monde à l'envers, hein. Tu vois, les gens qui ont des problèmes de poignets ou qui ont les mains qui veulent renforcer leurs doigts, etc. Et ben tu fais ça. Pareil avec celles et ceux qui veulent avoir plus de poigne, plus de grip, les mains plus dures. Et ben accroche-toi et passe plus de temps en fait au contact de l'objet que tu essayes de manipuler. Troisième, ce serait donc on a dit ah oui la densité osseuse. Donc avoir une pratique où tu as un peu des chocs quoi et d'améliorer tout ça. Et puis voilà. Donc c'est un peu les 3-4 éléments qui vont te permettre d'améliorer ton rapport au sol et d'être beaucoup plus à l'aise sans tapis, sans aide, etc. Plus tu vas avoir de l'aide et plus tu vas développer un corps d'assisté. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Pour améliorer, par exemple, pour renforcer tes chevilles et avoir la sensation que tu as des chevilles un peu plus dures, qui sont moins prônes au risque d'entorse, eh ben, entraîne-toi sans chaussures, entraîne-toi sans chaussettes, passe du temps à utiliser tes orteils, passe du temps pieds nus, passe du temps à sauter et te réceptionner avec les orteils, le contact du sol avec les pieds. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas vraiment de recette miracle. Et après, comme toujours, c'est toujours le volume d'entraînement qui va gagner, et le volume d'entraînement qualitatif, évidemment. Mais si tu es à chaque fois avec, ah, j'ai besoin de ma sangle gainée, j'ai besoin de mes gants pour accrocher aux barres, etc., et bien tu n'auras jamais cette occasion de renforcer ton corps et de le rendre imperméable. D'accord? Donc c'est vrai qu'il y a ce rapport aussi, moi j'en parle peu, mais j'en suis le pur produit. Il faut renforcer en fait le contact de la peau avec les objets. Tu vois, en fait, il faut avoir des cicatrices, quoi. Il faut avoir des calluses, tu vois, comment on appelle ça? Je sais pas comment on appelle ça en français. J'ai oublié le mot. Tu sais, bah, moi j'en ai plein, tu vois, partout, là, sur les mains, les pieds, etc. De la corne. En fait, il faut avoir de la corne, mais partout, en fait, sur tout le corps, tu vois, idéalement. C'est d'avoir, en fait, la surface de la peau qui soit dure. Et ça va t'aider, en fait, dans toutes tes pratiques physiques à te sentir aussi un peu mieux. Donc voilà pour la question des astuces pour sensibiliser le corps sans tapis. Et après, voilà, comme je te dis, ça, c'est étendable pour sensibiliser le corps sans gants, sensibiliser le corps sans ceinture, sensibiliser le corps sans chaussures. Voilà. Plus de temps, plus de volume, des exercices d'endurance et augmenter la densité osseuse, avoir de la corne. Et voilà, tout ça t'aide parce que tu es beaucoup plus stimulé et tu es stimulé de manière à ce que tu demandes à ton corps de se transformer. D'accord? Si à chaque fois tu utilises un outil pour compenser, eh ben, tu vas jamais te donner l'occasion de t'améliorer et de te développer. D'accord? Une citation, moi, que j'aime bien, Dido, qui était high-tech shoes, low-tech feet. Donc, des chaussures haute performance, ça masque les pieds qui sont de pauvre performance. Ben là, c'est un peu pareil avec les tibias, avec le genou, avec le pied. Voilà, tu peux t'entraîner tous les jours avec des prothèses tibias, ou bien, au bout d'un moment, tu te mets sur le sol et tu roules et tu laisses à ton corps le temps de s'adapter et de créer ce film protecteur autour de tes os, autour de ta peau et autour de tes articulations, évidemment. Voilà, Arnaud. Ok, il y a plein de réponses. J'y reviens juste après. Question numéro 4. Bonjour Slim, pourrais-tu nous partager ta bibliothèque idéale des livres qui ont changé ta vie? Question de Frédéric. C'est une énorme question. Je pense que je l'ai dit souvent dans les podcasts, je suis un énorme lecteur. Donc plusieurs livres par semaine, hein, depuis des années. Et donc, il y a évidemment 1 milliard de bouquins qui ont été très utiles dans mon développement, que ça soit physique, parce que moi je lis beaucoup, hein, évidemment, sur mes sports, hein, je vais pas faire le mec qui découvre tout seul. Non, évidemment, il y a énormément de bouquins sur la préparation physique, plein de bouquins sur la nutrition, plein de bouquins sur des choses très très précises, sur voilà, le développement de l'hypertrophie, le poids de corps, il y a plein de choses comme ça qui sont très utiles. Donc il y a évidemment plein de livres qui m'ont été utiles pour acquérir des connaissances, etc. Et après, pour ceux qui ont changé ma vie, bah, ça va faire un peu écho à la question numéro 2 de Mélissa sur, par exemple, comment résoudre les insécurités financières. Et ça va faire écho aussi à beaucoup de choses dont on parle dans les podcasts et les livres que la plupart des movers, des podcasts, des invités recommandent, qui vont être un peu des choses un peu plus sur le développement personnel, sur repenser la relation, repenser le rapport au corps, repenser le rapport à la spiritualité, etc. Donc moi, là, je pense à un livre qui n'a pas été partagé sur le podcast. Mais encore une fois, je vous invite à aller sur la liste des invités et à récupérer les livres. Il y en a énormément qui vont aider beaucoup de gens. Là, je pourrais pas, Frédéric, te donner une bibliothèque idéale parce qu'il y a trop de livres, mais je pense que ça peut être une excellente idée. Si ça vous plaît, bah, j'écrirai des reviews de livres sur mon blog. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, hein. Écrivez-moi un petit commentaire. Là, je pense à un livre en particulier qui va aussi aider Mélissa et qui va aider celles et ceux qui veulent peut-être changer de monde, quitter le monde du salariat ou en tout cas changer de paradigme quant au rapport au travail et au temps passé à travailler. Et c'est justement le titre du livre qui est « Rework ». Je crois le sous-titre, c'est quelque chose comme justement « Repenser la manière dont on travaille », qui s'adresse beaucoup aux gens qui travaillent dans les entreprises, et notamment les entreprises des startups en informatique, mais pas que, ça s'adresse aussi aux gens qui travaillent par exemple en agence, agence de marketing, des choses comme ça, et dans le monde des marques et du branding, tu vois, dans le monde où ça va assez vite, et il y a beaucoup de changements, et il y a beaucoup de meetings, et il y a beaucoup de choses comme ça. Donc voilà, ça peut être inutile pour quelqu'un qui est un artisan ou j'en sais rien, ou un magasin de fashion, mais voilà, pour les gens qui sont au bureau et qui travaillent dans des agences ou qui ont des clients et qui font des choses un peu dématérialisées, ça peut être un excellent bouquin. En tout cas, moi, il m'a beaucoup aidé à l'époque parce que dans ce livre, qui se lit très facilement, je crois que c'était t'as une page dans laquelle il y a un peu de texte, un petit paragraphe, et à droite, t'as une photo qui illustre ce paragraphe-là. Et c'est un peu toutes les phrases, en fait, c'est des catchphrases, c'est des citations, c'est des trucs, en fait, c'est presque tous des mantras. Et c'est des trucs qui font énormément, qui ont énormément de sens. C'est uniquement du bon sens. Et ça t'aide complètement à changer ton rapport au travail et à comprendre que, ou en tout cas, arrêter d'identifier la valeur ajoutée par rapport au temps passé à travailler. D'accord ? Je pense que ça, c'est un des points qui est, en tout cas moi, qui m'a énormément aidé à cette époque-là, c'est de comprendre que, en fait, tu peux ajouter de la valeur sans passer 70 heures au bureau, quoi, même 35 heures. Il y a des choses, en fait, que tu peux faire où tu peux être tellement efficace, mais en 2 heures, en fait, et ça va te sauver 35 heures de ta semaine. Et ça aide aussi beaucoup à te rendre compte que il y a beaucoup de choses qui sont énormément toxiques dans le monde du travail de l'entreprise, comme par exemple les meetings, comme par exemple le fait d'être tout le temps interrompu, tout le temps on pose des questions, tout le temps tu dois faire des choses mais qui n'ont aucun rapport avec le travail que tu es censé faire et la valeur ajoutée que tu es censé apporter au collectif, au groupe ou pour l'avancement du projet. Et en tout cas, voilà, c'est la vision qui est partagée dans ce livre-là. Et moi, c'est également ma vision. Tu vois, tout ce qui est meeting, les temps passés à programmer, à planifier les choses et à voir les tâches de tout le monde. Enfin, tout ça, pour moi, c'est à jeter à la poubelle. Tu vois, bon, après, là, moi, je suis le mauvais exemple parce que justement, déjà, de personnalité, je suis comme ça. J'aime bien faire les choses tout seul et j'aime bien quand ça avance vite, quoi. J'ai pas envie de passer 4000 heures à réfléchir sur quelque chose. J'ai envie de me mettre les mains dans le cambouis et y aller. Donc, c'est pas évidemment la meilleure des approches pour quelqu'un qui veut monter, je sais pas moi, un projet qui aide les gens à faire d'autres choses, j'en sais rien, qui vend des fringues, j'en sais rien. Mais voilà, en tout cas, moi, c'est mon approche dans ma vie. Et ouais, en fait, ce bouquin, il a vraiment fait tilt, il a vraiment résonné en moi et il t'aide à comprendre que voilà, tu peux ajouter de la valeur et tu peux vraiment servir le collectif en étant efficace, en filtrant les tâches qui sont réellement importantes par rapport à celles qui ne sont pas du tout importantes, en ayant ce travail honnête de comprendre que, bah oui, en fait, en 20% du temps, tu peux faire 80% des tâches. Si tu te concentres sur les plus grosses choses et les plus difficiles, bah, tu n'auras pas besoin de faire les choses les plus petites. Ça va aussi t'aider à reprendre confiance en fait, dans ton travail et avoir la vraie sensation que tu apportes quelque chose et que tu sers et que tu es utile et pas sortir d'une journée de bureau où tu as fait que lire des spreadsheets ou répondre à des emails. Mais tu sais que fondamentalement, si tu n'avais pas été là aujourd'hui, tu n'aurais rien changé en fait. Et des fois, tu passes des semaines et des mois à penser ça parce que c'est vrai au final. Je sais que j'ai pas de statistiques, mais il y a plein de gens en fait, le travail qu'ils font, il sert pas quoi. Il sert pas parce que le travail est inutile, mais c'est parce qu'il y a trop de temps passé à faire des petites choses qui n'ont pas une grosse impact, tu vois. Et ce livre-là, au travers des différents conseils qu'il donne et de cette manière un peu sous forme de mantra, et ben ça t'aide en fait à comprendre que ouais, il y a une autre manière de penser le travail, une autre manière d'être productif, une autre manière d'être beaucoup plus efficace et une autre manière de prendre du plaisir, de gagner en estime de soi quand tu travailles, de comprendre où est-ce qu'elle est réellement ta valeur, que c'est pas dans le spreadsheet ou dans l'email que tu écris, mais c'est peut-être ailleurs. C'est peut-être parce que tu as une capacité à résoudre les problèmes qui est très grande, tu as beaucoup d'empathie, donc tu es à même de faire ça. Tu es quelqu'un de créatif, donc tu as besoin de beaucoup de temps pour faire ça et donc tu n'as pas besoin d'être interrompu, etc., etc. Et donc voilà, je recommande ce bouquin-là qui s'appelle Rework et DHH, c'est l'auteur, un des auteurs. Donc voilà, et je recommande d'ailleurs les autres bouquins de cette entreprise qui s'appelle Basecamp. Ah oui, l'autre bouquin, moi je suis un fou, moi. L'autre bouquin, et après je vous laisse là-dessus, justement, de la même compagnie qui s'appelle Remote. Et là, c'est le livre en fait, si tu veux passer dans le nomadisme, et en particulier le nomadisme digital. Pour moi, c'est le bouquin aussi qui m'a changé la vie. Même principe, même facilité à lire et même concept. Donc là, le premier que je t'ai partagé, c'est Rework. Donc ça te permet de repenser le travail dans l'entreprise, quoi, et de repenser la relation au travail. Et là, le second que je te partage, qui est sorti, je crois, avant, qui est Remote, il te permet de repenser l'entreprise, tu vois. Il te permet de repenser le fait d'être physiquement présent quelque part et de rendre compte que, en tout cas, pour des métiers qui sont déjà la plupart des métiers au final maintenant, les métiers digitaux, quoi. Mais t'as pas besoin d'être en entreprise et qu'il y a plein de choses justement qui vont être beaucoup plus favorisées quand tu vas être dans un environnement où tu es beaucoup plus libre. Tu es chez toi, donc notamment le nombre d'heures passées au travail, la productivité effective, la créativité, la responsabilisation, le turnover. Tu vas évidemment moins avoir tendance à quitter ton entreprise si on te donne beaucoup plus de responsabilités et qu'on arrête de te traiter comme un enfant qui doit faire des tâches, mais plutôt on te donne la liberté de justement de créer, d'imposer ton rythme, d'oser en fait. Donc voilà, plein de choses comme ça. Donc le premier pour repenser l'entreprise ou le monde de l'entreprise, etc., ou le travail de manière générale. Et le second pour justement se diriger vers quelque chose qui est beaucoup plus voilà, dématérialisé et nomade. Donc voilà les deux bouquins auxquels je pense maintenant. Mais après, voilà, il y a énormément d'autres livres qui vont être dans d'autres sujets que je pourrais partager avec grand plaisir pour cette bibliothèque, la bibliothèque des movers, tiens, la bibliothèque de livres des movers qui vont permettre de changer la vie ou en tout cas d'aider à améliorer la qualité de la vie. Voilà un peu. Là, je suis parti dans un monde intéressant avec ces deux livres. J'y avais pas pensé depuis des années. Donc voilà, c'est une très bonne chose. Mais il y a énormément de bouquins, évidemment, là-dessus. Dernière question. Salut mon Slim, pour ton FAQ. Quand, comment, pourquoi as-tu débuté le mouvement? Quels ont été tes maîtres? Question que je me posais l'autre jour. Du bon JB, invité du podcast, invité numéro 7 du podcast, le bon JB, un de mes frères de lumière, de mes amis et de mes élèves. Donc voilà, une excellente question mon JB, et tu me donnes encore une fois l'occasion d'ouvrir un peu plus, comme je te disais, hein, mon cœur sur mes expériences passées. Donc voilà. Alors, quand, comment, pourquoi as-tu débuté le mouvement? J'imagine que toi, ce que tu entends par le mouvement, c'est la pratique du mouvement, donc l'entraînement au mouvement, on va dire, ce qu'on assimile, ce qu'on attribue au développement des qualités, des fonctions naturelles du corps et de développer cette liberté de bouger le corps de toutes les manières, cette adaptabilité de l'individu au poids de corps, d'être capable d'à peu près tout faire. Donc, voilà, c'est ça le mouvement. Je pense que la JB veut définir la pratique du mouvement en ce sens-là. Parce que sinon, moi, j'ai commencé le mouvement depuis l'âge de 4 ans, vu que j'ai fait du sport toute ma vie. Alors, moi, j'ai commencé en 2017, début 2017. Donc, fin 2016-2017, ça a été la transition pendant laquelle j'ai quitté, à l'époque, j'habitais au Japon. J'ai quitté le Japon pour vivre en Thaïlande. Et en Thaïlande, j'ai rencontré plusieurs maîtres en mouvement, dont l'un d'eux qui venait de finir aussi beaucoup d'années avec la culture du mouvement, Dido Portal, Movement Culture, et qui a été un des premiers sur cette île à commencer à partager ces choses-là. Donc moi, avant ça, je venais d'un gros background de danse, d'arts martiaux et de calisthenics et de football, évidemment. Et donc, j'étais très sensible à la pratique du mouvement dès 2014, dès 2015, donc à faire mes recherches et à toujours pratiquer de mon côté, que ce soit avec le break, avec la capoeira, avec les choses comme ça. Et pour la movement culture et la découverte notamment de la locomotion, La pratique au sol, je l'avais déjà, mais j'avais qu'une pratique limitée. Enfin, une pratique limitée, non, c'est déjà énorme, une pratique très précise du sol qui était avec le breakdance. Donc là, ça m'a permis de découvrir d'autres choses. La redécouverte de la colonne vertébrale, notamment. Et puis le mix un peu entre capoeira, entre arts martiaux chinois et entre arts martiaux tout court comme JJB, etc. Et puis cette nouvelle emphase sur la gymnastique et moins le calisthenics. Donc voilà, ça a été à l'époque le comment je suis rentré dans cette pratique-là. Et après, à partir de cette première expérience, ben justement, j'ai pu appartenir à cette culture-là du mouvement. Parce qu'on s'est tous regroupés à cet endroit pour pratiquer au quotidien. Et donc là, ça a été l'occasion pour moi de découvrir aussi d'autres choses auxquelles je n'avais pas été sensible par le passé. Comme moi, par le passé, la seule expérience que j'avais en rapport avec la physicalité, c'était le sport et c'était la compétition. Donc moi, je suis le pur produit de la compétition. Je n'ai jamais rien fait dans ma vie pour le plaisir de le faire. Voilà, en tout cas avant. Donc je venais de ça, c'est-à-dire que mon seul objectif dans n'importe quelle pratique dans laquelle je me lançais, c'était d'être le meilleur possible, mais il y avait toujours cette idée pas de conflit, mais de battre quelqu'un, quoi, de gagner. Et j'étais vraiment dans cette dualité-là, de toujours chercher à prouver des choses et à rechercher la validation et qu'on me dise que ah, c'est bon, c'était bien et que t'es fort, etc. Et après, voilà, j'ai résolu un peu ce gros dilemme, cette dualité avec l'ego. Et cette recherche de la validation et d'être tout le temps sous la lumière des projecteurs. Et donc là, ça m'a permis de développer, d'avoir en tout cas une première approche vers se recentrer, avoir une pratique qui est personnelle, seulement pour toi, basée sur le ressenti, basée sur la qualité du mouvement, basée sur l'appréciation de ton corps, basée sur apprécier ce que tu es capable de faire, mais simplement dans cette idée de vraiment rendre grâce à ce véhicule-là et moins par rapport à l'autre. D'accord? Moi, j'étais toujours dans ce rapport à l'autre. Et là, c'était une première voie d'élévation pour moi vers le rapport à soi. Et ça a été vraiment un énorme point de départ qui m'a évidemment fait plonger encore davantage dans la pratique du mouvement. Mais voilà, moi, comme je venais d'un énorme background déjà sportif, il y a beaucoup de choses que tu découvres. Mais pour moi, elles n'ont jamais été fondamentalement énormes, tu vois. C'est-à-dire qu'il suffit que tu fasses un peu de sport dans ta vie et que tu t'intéresses au sport et au mouvement, bah, tu as tout vu un peu. Enfin, tu sais ce qu'on est capable de faire. Tu vois, on est capable de sauter, faire des saltos, etc. Donc voilà, après, quand tu as des gens qui font des flows au sol et des flows, bah, voilà, si tu as déjà été intéressé par le sport, tu connais le cirque, etc. Tu sais que le corps humain peut faire des choses incroyables. Donc moi, ce n'était pas vraiment dans le gain de connaissances techniques, même s'il a été énorme. Mais c'était plus dans ce qu'il y avait autour. Et donc autour, là, tu commences à parler de nutrition, tu commences à parler de méditation, tu commences à parler d'expérimentation avec d'autres choses aussi, que ce soit les plantes, etc. Et en fait, tu commences en fait à élargir ton vocabulaire pour comprendre ce que c'est que de vivre une expérience de vie humaine. Donc le rapport au corps, le rapport à la conscience, le rapport à l'autre, le rapport aux énergies, le rapport à yin-yang, écouter ton corps, écouter les sentiments, écouter les sensations. Et donc tout ça, pour en revenir aux questions qu'on posait, par exemple la première question, c'est ça aussi, c'est ces outils-là qui te permettent de comprendre et d'accepter les blessures, de savoir d'où elles viennent, d'avoir une réelle auto-évaluation précise, honnête, sincère, complète, d'éviter de retomber à chaque fois dans les mêmes patterns que tu avais l'habitude de faire, d'éviter de te blesser aux mêmes endroits. De savoir quand t'arrêter, de savoir quand pousser, de savoir exactement pourquoi tu fais les choses, qu'est-ce que tu recherches. Et en fait, toutes ces questions-là qui sont au final les questions les plus importantes quand tu essayes de travailler sur ton corps, parce que c'est les questions que tout le monde se pose, mais tout le monde les garde en soi et personne n'en parle, alors que c'est ça ce qui est important. Ce que les gens veulent réellement savoir dans leur pratique physique et même dans leur pratique, tu vois, de bouger leur corps, c'est quand est-ce que je pousse, quand est-ce que je m'arrête? Quand est-ce que je devrais faire ça? Combien de temps je devrais le faire? À quelle intensité? C'est toutes ces questions-là. C'est jamais le salto, par exemple. C'est jamais le résultat. Parce que ça, tu sais que bah, tu t'entraînes et tu l'as. Tu vois, vu qu'il y a d'autres humains qui peuvent le faire. Comme on est de la même espèce, eh ben, techniquement, si toi tu peux le faire, moi je peux le faire. On est le même animal. Donc, tu vas pas voir un gars qui fait un triple salto et te dire, c'est impossible pour moi. Si tu te dis ça, c'est parce que tu as d'autres blocages. Mais vous avez le même corps. Donc, si lui il peut le faire, toi tu peux le faire. Si un humain peut sauter, toi tu peux sauter. Donc c'est jamais ça en fait l'important, c'est le reste. Et donc moi, cette première expérience d'un peu plus, un peu moins d'un an, pardon, avec la movement culture, c'est ça que ça a vraiment déverrouillé en moi, en plus des mouvements et de la partie un peu plus technique. Moi, c'était ça, en fait. C'était vraiment le côté un peu plus intangible sur la compréhension, en fait, de ce que c'est que d'être dans un corps capable de bouger librement, le rapport à la longévité, et en fait, ouais, complètement changer de paradigme, de plus mesurer tes progrès ou ton succès ou par la victoire, la défaite, par la métrique de vanité qui est le chiffre que tu peux soulever, par l'intensité, par moi, je suis capable de m'entraîner tout le temps et jamais me reposer. Non, non. En fait, tu comprends que t'essayes d'être en harmonie, en fait. Tu veux être en harmonie avec ton corps, avec la nature, avec ses besoins, avec les hormones, avec le cycle de la journée, avec les saisons, avec ce que tu ingères. Et en fait, t'essayes de justement remettre toutes les pièces dans l'ordre pour rétablir le puzzle qui est le puzzle de l'expérience de vie humaine. Et c'est ça qui, moi, m'a vraiment impacté et qui, par la suite, m'a fait plonger encore davantage, dans la pratique du mouvement, au sens movement culture, mais aussi vers la nutrition, la spiritualité, la méditation et toutes les autres choses. Et qui ont fait que, voilà, 4-5 ans plus tard, maintenant, je suis capable d'avoir un discours qui est un peu plus cohérent, qui essaye d'englober toutes les dimensions de notre être et qui me permet, avec toutes ces expériences-là, d'essayer au mieux de partager quelque chose qui fait sens, en tout cas, je l'espère, pour la plupart des gens, et qui présente des outils qui sont actionnables, accessibles, faciles à implémenter et qui permettent à tous d'avoir cette autonomie-là et d'avoir cette sensation de regain de contrôle sur ses mouvements, sa santé, son corps. Parce qu'il ne faut pas oublier que, voilà, moi, le fait que j'ai eu accès à toutes ces expériences de vie-là, c'est parce que j'ai fait des choix dans ma vie qui m'ont amené à appartenir à un groupe de gens qui n'est pas le groupe de gens du quotidien. C'est le groupe de gens des athlètes, pour certains domaines des athlètes de haut niveau, et aussi des gens qui sont troublés, on va dire, pour le dire gentiment, et qui, évidemment, en fait, plus tes démons sont gros, plus tu vas avoir des expériences qui vont être intenses parce que tu vas essayer de rechercher uniquement dans l'intensité le moyen de les adresser. D'accord ? Si ta seule préoccupation, elle est de... je sais pas moi, de... Bon, j'ai pas d'exemple, mais si ta préoccupation, elle est très, très petite ou très... pas très naïve, mais on va dire elle est très, très douce, évidemment que la solution que tu vas essayer de trouver, elle va être toujours dans la douceur, tu vois. Donc quelqu'un qui se pose pas des questions importantes, qui se pose pas des questions difficiles, il va toujours essayer d'avoir une vie facile et une vie douce, tu vois. Le gars qui se pose des questions difficiles ou qui ose se challenger, il va aller dans des belles aventures qui vont être assez compliquées, assez difficiles, que ça soit avec des remises en question, avec des changements totaux de style de vie, tu vas passer du tout au tout. Et voilà, il va vivre avec une certaine intensité. Moi, ça a été le cas. Et voilà, tous les gens du podcast, c'est également le cas, en fait. Et c'est ça que moi, je veux essayer de partager aux gens. C'est que par l'intensité des expériences de vie que tu as, tu vas aussi avoir des outils qui vont être, qui sont assez difficiles d'obtenir. Et c'est pour ça que moi, j'invite tout le monde à toujours encore plus essayer d'affiner cette relation qu'ils ont avec leur corps, parce que ça va être un des moyens les plus efficaces pour justement après affiner la relation au cœur et à l'esprit. Et c'est ça, moi, que j'essaye de faire humblement. Donc voilà un peu pour le quand, comment, pourquoi, le mouvement, mes maîtres. Donc voilà, il y a eu ce maître-là, les Ido, les Gymnastic Bodies, Joseph de Fighting Monkey, beaucoup de danseurs, beaucoup de b-boys, et puis voilà, hein, beaucoup de gymnastes, beaucoup de gars du calisthenics, fitness FAQ. Donc voilà, ça a été un peu les inspirations, les gens avec qui je me suis entraîné. Moi aussi, c'est ça que j'ai eu la chance d'avoir aussi, enfin la chance, toute proportion gardée, je me la suis créée, c'est de pouvoir m'entraîner en fait avec toutes ces personnes-là. Donc les gens que tu vois sur Instagram, voilà, moi c'est des gens avec qui je m'entraîne à la salle, donc voilà, c'est des belles, belles relations d'amitié. Tu as des beaux profils aussi, que ce soit des artistes, des danseurs, des cascadeurs, des youtubeurs, des influenceurs, peu importe. Tu as toujours des parcours de vie intéressants et voilà, ça te permet d'avoir des relations mentor, mentoring, on va dire, plutôt que maître. Les maîtres, pour moi, c'est Bruce Lee, tu vois. C'est ça, un maître. Mais donc, il y a aussi le côté, faut qu'il ait, faut qu'il presque, il disparaisse de ce monde physique pour atteindre le statut de maître, tu vois. C'est les Musashi, les Bruce Lee. Mais sinon, le reste, c'est des mentors, c'est des partenaires de jeu, c'est des frères, voilà, c'est des relations d'amour et de jeu, simplement. Les enfants du bac à sable, voilà. J'espère que ça répond à la question, mon JB. Donc voilà, les cinq questions. Je vais regarder rapidement les questions sur le chat, essayer d'y répondre. Donc il y a pas mal de questions. Alors je remonte un peu. Pap, 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 pap. Alors Fabien, c'est vrai, je me rappelle. C'est vrai, je me rappelle de cette analyse. Pourquoi je suis mort juste le trajet et repartir en manne sans prendre un moment de repos à ne plus jamais faire. Oui, donc là c'était pour le repos. Sylvain, souvent il y a une compensation. Exemple, manque de sommeil, tu compenses avec des aliments qui stimulent et là tu rentres dans un cercle vicieux, comme tu dis Slim, observer et ralentir. Absolument. Ça c'est très très important. S'il y a quelque chose sur laquelle, en rapport avec la première question sur la fatigue, il faut vraiment mettre l'accent et j'invite tout le monde, là encore une fois, je ne suis pas en mode prêcheur, mais j'invite tout le monde à faire l'observation honnête de la qualité de son sommeil. Je vous garantis que la qualité de ta journée, elle commence par la qualité du sommeil que tu viens avoir. Si ton sommeil, il est mauvais ou il n'a pas été réparateur, garantis que ta journée, peu importe ce que tu fais, elle va pas bien se passer. Notamment à cause de voilà ce dérèglement hormonal qui va faire que tu vas avoir faim, tu vas être un peu agité, tu vas avoir besoin d'excitants extérieurs, tu vas être sur les nerfs, etc., etc. Tout ça va être l'accumulation de choses qui vont faire que ta journée, en tout cas, elle va être très difficile de bien commencer. Sauf si, évidemment, dans ta routine, tu as justement des choses qui vont te permettre d'adresser cette chose-là, des petites pratiques conscientes, que ce soit un peu de respiration, un peu d'exposition au froid, un peu de mobilité, un peu de mouvement. Savoir que si j'ai eu un sommeil qui a été déréglé, eh ben le travail, je vais essayer de le réduire. Savoir que si j'ai eu un sommeil déréglé, mon premier rendez-vous avec quelqu'un, je vais essayer de l'aborder qu'en conscience. Peut-être même saluer cette personne et lui dire immédiatement, écoute, j'ai eu un mauvais sommeil, il se peut que j'ai quelques réactions qui soient un peu différentes, etc., etc. C'est un peu ce travail-là de reconnaître ce qui vient de se passer et qu'on va être sensible à des changements pas de comportement, mais on va dire des choses qui peuvent être inhabituelles et directement le mettre en fait à nu, le mettre dans le monde pour que par la suite aussi tu puisses plus facilement te pardonner quand il y a des excès, quand il y a ça, et simplement t'abandonner à cette sensation et voilà, ne pas t'entraîner 3 heures. Si tu avais planifié t'entraîner 3 heures, tu sais que c'est pas possible vu que tu viens de mal dormir. Donc voilà, toutes ces choses-là, elles sont très importantes et je reviens là-dessus, le sommeil, c'est 90% de la journée, c'est le sommeil. Ah, réponse de Mélissa et Benjamin. Merci Slim, on partage les mêmes systèmes de valeurs quant au rapport à l'argent. On tend vers le zéro déchet malgré tout en France. Par exemple, quand tu veux louer un appartement, on te demande d'avoir un CDI, chose qu'on n'a pas avec notre mode de vie, etc. Ça rend le rapport à l'argent un peu stressant malgré tout. Absolument, ça je comprends tout à fait. Mais voilà, ça c'est encore les choses qui font que. Il faut essayer de trouver des astuces et il faut essayer de justement de. Si tu sais en fait, c'est très simple. Tu sais que t'es dans un. Tu veux jouer à un certain jeu qui a certaines règles. En fait, il faut accepter directement ces règles et après décider est-ce que tu veux jouer à ce jeu-là ou ce jeu-là ne te correspond pas, auquel cas tu changes de jeu. Ça, c'est un peu l'idée que moi je partage. C'est-à-dire que si tu es dans un système. Qui te bloque, que ça soit un système, le pays dans lequel tu es, la famille ou je sais pas moi, le groupe d'amis, eh ben tu changes de système, tu vois. Au bout d'un moment, il faut faire ça, ou bien tu trouves un moyen de contourner les choses. Mais ouais, pour moi, une des choses qui aide vraiment beaucoup dans la vie, et c'est ouais, d'être un peu plus à l'aise avec tout ce qui se passe, même là en ce moment avec, tu vois, le Covid, avec les restrictions, etc., c'est d'avoir une certaine dose, tu vois, de débrouillardise et de courage. Et ouais, et en fait, promouvoir ces choses-là, quoi, vivre une vie avec courage et avec cette idée de je veux pas que les choses m'atteignent et je veux avoir une carapace et voilà, être protégé et oser faire les choses quand il s'agit de passer à l'action. Donc, pas nécessairement le courage belliqueux et le courage guerrier, mais le courage au sens de la vertu d'être courageux, quoi. D'avoir assez en toi pour oser dire et oser être. Voilà un peu. Katia, question. Ah, pardon, excuse-moi. On ira écouter les podcasts qu'on a ratés avec les invités qui parlent de leur expérience. Ça nous permettra d'avoir des réponses. Absolument, Mélissa Benjamin, je vous invite à écouter les podcasts sur. Voilà, je crois que c'était épisode 2, épisode 3, épisode 19. Ça, c'est ceux dont je me rappelle. Épisode 8 avec le bon Loïc, dans lequel on parle d'entrepreneuriat. Et voilà, dans les quatre que je viens de citer, il y a des coachs, il y a des gens qui créent des écoles, il y a des gens qui ont créé des formations en ligne. Et il y a des gens qui ont créé des camps d'entraînement dans tous les pays. On a la Hollande, on a la France, on a le Brésil. Donc voilà, ça donne déjà un bon panel pour débuter. Katia, question pour la douleur. Est-ce que tu as des connaissances de méditation pour travailler son rapport à la douleur et reprogrammer son cerveau, en plus de travailler le corps et le système nerveux? Et ça, c'est une très très bonne question. Et après, tu as écrit l'accord. Merci Katia, mais j'ai trouvé le mot. Non, j'ai pas de connaissances sur la méditation pour travailler le rapport à la douleur, mais le rapport à la douleur, c'est aussi une des choses qu'il faut travailler. Encore une fois, pas besoin de se torturer. Moi, je suis pas du tout à prôner, par exemple, tu veux renforcer tes tibias, et ben tu prends un bâton et tu frappes ton tibia. Pour moi, il y a beaucoup plus malin, il y a beaucoup plus efficace, il y a beaucoup plus utile. Peut-être pas en méditation, mais ce qui aide, c'est la respiration. Ça, c'est sûr à 100% de par ma pratique, mais également de par les études, de par comprendre en fait que mieux respirer, ça va t'aider à mieux gérer, à mieux déjà apporter de l'oxygène aux muscles, à mieux gérer le moment où il y a un impact, à mieux gérer le moment où tu as justement un influx sanguin qui essaye d'aller dans la zone où tu viens d'avoir un choc et à apporter suffisamment d'oxygène à cette zone-là. Par exemple, tu te cognes quelque part, tu cognes l'orteil. Premier réflexe, c'est que tu as envie de crier, etc. Mais des fois, tu ne peux pas. Et on a tous ce réflexe où, tu sais, on essaye de... Tu vois, on ferme la bouche et on inspire beaucoup d'air. Et bah, ou que, par exemple, on te met une piqûre ou un truc, il y a toujours cette sensation de... Si tu serres les dents et tu respires, on a un peu ce réflexe-là. Et bien, justement, tu peux travailler ta respiration en dehors de moments où tu es en choc pour justement améliorer l'idée de toujours passer sur ce système avant de passer sur le système parasympathique et le système du flight or fight et le système du choc, il faut fuir ou il faut combattre et le stress et la production de cortisol. Tu t'entraînes à mieux respirer, à mieux contrôler ta respiration et tu vas voir que la relation au choc, la relation aux premiers signaux de douleur, elle va être beaucoup plus, comment dire, mise, il y aura une sorte de mise en tampon en fait. Tu auras plus grand temps avant de justement passer en flight or fight. Et ça, c'est utile. Pour moi, ça permet justement d'avoir une meilleure relation à la douleur. Et c'est ça, c'est en augmentant ce petit threshold, ce petit taux-là, petit à petit, ça va aussi te donner la confiance pour, dans ta pratique, augmenter légèrement l'intensité parce que tu sais que tu peux durer plus, tu vois. Et c'est ça, au final, qui te permet par la suite d'avoir une meilleure tolérance et une meilleure appréciation à la douleur. Et évidemment, ça uniquement, c'est pas... Enfin, pardon, cet outil-là seul ne va pas tout faire, comme je te l'ai dit, c'est un premier point d'accroche pour commencer petit à petit à augmenter la difficulté dans les choses que tu fais. Le seul moyen d'être de moins en moins sensible à la douleur, c'est de faire des choses de plus en plus difficiles. C'est ça la vie. C'est pour ça que, par exemple, en ce sens-là, la pratique des arts martiaux, elle est excellente. C'est-à-dire que si tu t'habitues pendant des années à recevoir des coups, tu auras réellement une meilleure résistance à la douleur, en fait, parce que tu as cette confiance en toi que régulièrement, dans ta semaine, tu sensibilises ton corps, tu le stimules à résister à la douleur dans un environnement qui est contrôlé, qui est safe, qui est bienveillant si tu as une bonne salle avec des bons partenaires d'entraînement. Et si tu fais de la compétition, c'est encore mieux parce que tu as aussi ce côté où tu vas pleine balle et tu te rends compte que tu n'es pas mort et qu'il n'y a rien de cassé la plupart du temps. Donc voilà. Mais la respiration, qui est aussi une forme de méditation, ça peut être un excellent moyen pour commencer ce travail de renforcer un peu ta résistance à la douleur. Après, évidemment, il y a d'autres choses, hein, l'exposition au froid, les choses comme ça, mais le point commun, en tout cas, comme je te disais, si tu dézoomes et tu essaies d'avoir un principe qui pourrait régir tout ça, ce serait de faire des choses difficiles. Plus tu fais des choses difficiles, plus tu es tolérant en fait à la douleur, plus tu es tolérant à l'ennui, plus tu es tolérant à plus t'es patient, en fait, plus t'es tolérant à tout, tous les trucs chiants, quoi. Parce que tu fais des choses difficiles. Les choses difficiles, elles sont chiantes. Mais plus t'en fais, et ben plus au bout d'un moment, si on te dit, vas-y, bah, il te faut 3 semaines pour récupérer, tu dis, bon, bah, c'est pas grave, tu vois. Je dois avoir 3 semaines parce que c'est pas si important, quoi. T'as déjà fait des choses difficiles. Voilà un peu pour mon approche là-dessus. Papa, papa. Oui, Chloé me dit oui pour les reviews de book. Eh ben écoute, c'est une bonne idée. Deep Work, recommandation de Katia. J'adore Deep Work, qui est dans le même registre que les deux livres dont je viens de partager, qui est, je crois, de... C'est pas James Clear. Non, non, James Clear, c'est Atomic Habits. Mais Deep Work, j'ai oublié l'auteur, mais excellent également, qui t'apprend voilà, un peu les mêmes règles, quoi, du 80-20, les règles de Pareto, etc. Ah, bah juste après, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Oui, de, je sais plus comment il s'appelle, mais excellent également, avec le 80-20, le principe de Pareto. Magnifique, on a tous à peu près les mêmes références. Super, super, les movers. Les livres, je vois que ça plaît, donc on va essayer de faire ça. Alors, ensuite, j'ai perdu le fil. Ta-da-da-da-da. Oui, le 80-20, principe super intéressant. En effet, Katia, ça permet de se poser et, comme dit Slim, repenser ce qui est utile et ce qui ne l'est pas quand on entreprend. Absolument. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je regarde rapidement. Papapapa, il n'y a que du positif. J'apprécie beaucoup. Quelle plateforme? Marcel. Est-ce que tu connais la méthode russe, le Hadou? Non, Marcel, je ne connais pas la méthode russe, le Hadou. N'hésite pas à partager ça. Alice, bonjour Slim, je suis ton travail depuis quelques temps et j'apprécie beaucoup toutes les notions que tu abordes et surtout les podcasts qui font toujours du bien. Eh bien, merci Alice, magnifique. Question qui a rien à voir. Jean-Paul, les formations, peut-on les payer en plusieurs fois? Absolument. Ah, Cal Newport, merci Katia. Cal Newport, le bon deep work. Donc voilà, ça conclut un peu les questions, les movers. J'espère que ça a été audible. Ah, Alice, petite question, la dernière. Petite question en précision, la mobilité adresse principalement le lien entre le corps et le système nerveux. Comment adresser par exemple les tensions musculaires? Est-ce que cela passe par la mobilité? Non, pas entièrement, même si ça peut être, tu peux utiliser des exercices de mobilité pour te rendre compte des tensions musculaires. Et évidemment, tu pourrais les fixer, pas uniquement par la mobilité, ben, en fait ça dépend, comme à chaque fois ça dépend le cas de figure. Si par exemple tu as... comme j'en parlais dans le podcast Super Physique avec Rudy Koya, que je vous recommande à tous, dans lequel je rentre uniquement en détail sur la mobilité articulaire. Je parle que de ça. Il n'y a rien de cosmique que la mobilité. Les fréquences, le volume d'entraînement, les exercices, pourquoi, comment. Je vous recommande ce podcast qui est sur SoundCloud. Vous tapez devenir super mobile ou tapez Super Physique Nomad Slim. Normalement, vous le trouvez. Donc, pour répondre à ta question rapidement, pour adresser les tensions musculaires. Tensions musculaires, c'est assez vague. Et on va dire que tu fais référence au fait d'avoir peut-être les tensions, certains muscles un peu trop courts. Et auquel cas, la solution, c'est évidemment l'élongation musculaire, c'est d'allonger les muscles. Mais comme je disais dans le podcast, moi, je ne recommande pas nécessairement le travail de flexibilité unique, mais toujours le travail de mobilité, parce que la mobilité, c'est flexibilité plus force. Comme il y a ce regain de contrôle de ton articulation par cette reconnexion avec ton système nerveux, et bien en fait, pour pouvoir bouger ton articulation davantage, il y a évidemment une certaine élongation musculaire que tu vas devoir avoir. Mais si tu travailles uniquement ta mobilité, en fait, tu vas développer pile poil la longueur qu'il faut et pas plus. À la différence d'un contorsionniste ou d'une certaine forme de yoga qui prône que les positions statiques, où là, tu vas développer un niveau de flexibilité qui peut être beaucoup trop par rapport à l'utilisation que tu as envie de faire de ton corps. C'est-à-dire que par exemple, tu peux avoir un deep squat, un pistol squat et être capable de lever la jambe et de frapper un adversaire à la tête, donc d'être capable d'avoir toute ton amplitude de mouvement et d'être capable de générer de la force dans toute cette amplitude-là, travail de mobilité articulaire, sans pour autant être capable de faire un grand écart et maintenir le grand écart au sol. Donc voilà, c'est un peu la différence. Mais pour répondre à ta question, c'est un peu un oui-non. N'hésite pas à m'envoyer plus de détails pour avoir un cas particulier. Mais ouais, si tu travailles uniquement ta mobilité, tu vas développer suffisamment de flexibilité et suffisamment de force pour pouvoir bouger ton corps librement. Et généralement, ça va fixer et ça va t'aider à un peu adresser ce que tu pourrais appeler tension musculaire, même si je ne sais pas exactement ce que tu veux dire par là. Voilà un peu pour cette belle foire aux questions. Je vous remercie tous d'avoir participé. Les questions étaient top. J'espère que ça a aidé. J'espère que ça vous plaît également d'avoir un peu plus de questions qui traite de choses pas annexes, hein, parce que comme d'habitude, moi, ça fait partie de l'univers que j'ai envie de partager, ça fait partie de cette cohérence globale et de ce système de valeurs globales que moi, j'essaye de partager autour du mieux vivre, du mieux bouger, du mieux se sentir. Parce que comme toujours, je pense que là, vous tous, vous faites partie maintenant de cette tribu-là de movers qui comprennent que c'est pas possible d'adresser les choses séparément. On n'est pas fait comme ça, en fait. On est vraiment des êtres multidimensionnels et toutes les choses ont un impact. Le fait de refuser de le voir, c'est soit une vision naïve ou soit c'est se mentir à soi-même. Tu peux pas penser ton travail, la relation avec ton partenaire, si tu penses pas à la relation à ton corps, la relation à tes pensées, la relation à ton cœur. Et le dire, le sentir, le vivre et essayer de l'améliorer, c'est pas du tout une tare, c'est pas du tout une tâche insurmontable, c'est pas quelque chose qui est à éviter et c'est pas quelque chose de complexe, c'est quelque chose d'extrêmement simple, sauf que ça prend du temps. Il faut le faire, il faut être régulier, il faut dédier du temps à améliorer la relation qu'on a avec soi. C'est tout ce que ça veut dire. Mais quelqu'un qui refuse de jamais réfléchir à ses pensées et qui se dit non, je veux pas le voir, etc., bah, de toute façon, on va toujours le payer quelque part par la suite. Et moi, c'est ce que j'essaye de rétablir. J'essaye de rétablir simplement cette simplicité et ce rapport à soi qui fait partie de notre expérience de vie, qui fait partie de notre humanité et qui n'est pas quelque chose qu'on devrait éviter, qui n'est pas quelque chose qu'on devrait voir comme ah, je suis différent et c'est chiant et pourquoi ça m'arrive qu'à moi. On a tous cette même expérience de vie. Et moi, ce que j'essaie de partager au travers de tous ces outils-là, c'est simplement ça. C'est simplement des outils pour permettre à chacun d'avoir et de pouvoir utiliser des choses qui vont les aider à avancer, tout simplement, en toute simplicité, en toute humilité. Il n'y a pas de formule miracle. Ce n'est pas le nouveau truc qui va tout remplacer. Pas du tout. C'est simplement utiliser tout ce qu'on a réussi à découvrir par toutes les formes d'entraînement, par toutes les formes de méditation, par toutes les formes d'alimentation, par toutes les expériences de vie, des gens qui voyagent, des artistes, des entrepreneurs, des gens qui ont une vie de famille, etc. C'est essayer d'avoir de redévelopper cette conscience collective et d'essayer de trouver des gemmes de sagesse et des valeurs communes autour de voilà, bah bien bouger, c'est bien me sentir, c'est mieux penser, c'est être plus ambitieux, c'est avoir cette volonté de servir, c'est comprendre qu'on vit tous ensemble sur cette planète, c'est d'avoir peut-être le rapport aussi avec la nature, c'est d'essayer de faire un peu plus attention à ce que je fais, à ce que je dis, à ce que je dépense, la manière dont je m'adresse à autrui. Et voilà, et tout simplement, en fait, c'est d'essayer d'optimiser cette expérience de vie. Et après, par la suite, voilà, s'il y a des choses qui t'intéressent, des passions, etc., d'oser les aborder, d'oser les traiter et de simplement rendre grâce, en fait, au fait qu'on a une chance incroyable de vivre une expérience en étant humain, quoi. On aurait pu être caillou, voilà, ce qui est moins sexy. Donc voilà un peu pour ce que j'essaye un peu de partager. Et donc je vous remercie de prendre le temps, un bon dimanche matin, de venir, de participer, de partager ces belles énergies. Moi, ça me fait énormément plaisir et j'espère vous servir et partager des choses qui peuvent être utiles. Encore une fois, c'est totalement ouvert ici. C'est pas moi qui viens et qui déverse des choses, c'est nous qui travaillons ensemble, qui essayons de définir, qui essayons de nous renseigner, qui essayons de partager justement les différentes expériences des uns et des autres, les retours d'expérience, et aider le collectif à avancer et à progresser. Voilà, en toute simplicité. Pas beau ça ? Donc je conclue là-dessus. Pour celles et ceux qui ne sont pas abonnés à la newsletter, je vous invite évidemment à vous inscrire par email. C'est là-dedans que toutes ces belles connexions se font, que je partage des choses quotidiennes, un email par jour dans lequel j'écris sur tous les sujets-là. Et c'est grâce à vous et à vos réponses que j'arrive un peu à m'orienter et à essayer de trouver les choses qui peuvent vous servir, notamment sur les articles, les vidéos, etc. Donc voilà, abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas le cas. Ça, pour le coup, ça aide. Ça aide énormément. Et puis, je conclurai là-dessus. Des gros bisous les movers. J'ai des beaux messages que je vais lire tout seul. Je vais garder ce petit plaisir pour moi, lire les bons messages de soutien et de gratitude. Mais c'est moi qui vous remercie comme d'habitude. Gratitude, abondance et bienveillance les movers. Je vous fais des gros bisous. Passez un excellent dimanche. Portez-vous bien, bougez bien.